Radio Notre-Dame, la vie prend un sens. En quête de sens, Sophie Noaille.
Comment accueillir son homosexualité et l'annoncer à sa famille et à ses proches quand on est issu d'une famille bourgeoise catholique alors que sa vie paraissait toute tracée et peut-être tranquille? C'est le récit de Marie-Clémence qui aujourd'hui à 31 ans révèle dans son livre « On ne choisit pas qui on aime » publié aux éditions Flammarion tout son parcours de vie, son amour, ses épreuves, la relation à sa famille et à la religion et sa volonté de vivre sa vie sereinement comme tout le monde sans tomber dans le militantisme pour autant. Mais comment combattre cette peur, ce rejet et cette ignorance chez les autres? Comment faire en sorte que les regards et les attitudes changent, que les clichés tombent à l'heure où les actes homophobes et discriminatoires se multiplient? On en parle aujourd'hui dans Quête de sens. J'ai le plaisir d'accueillir Marie-Clémence Bordaniquez. Bonjour Marie-Clémence.
Bonjour.
Bienvenue, vous êtes chargée de production. Donc issue d'une famille bourgeoise, catholique, c'est ce qu'on trouve sur votre couverture dans le livre « Je suis chrétienne, bourgeoise et mariée avec une femme ». Vous aviez une vie toute tracée, à 21 ans vous étiez en couple avec un garçon charmant que vos parents appréciaient. Tout allait pour le mieux, j'allais dire dans le meilleur des mondes, jusqu'au jour où Aurore, une collègue de travail, est entrée dans votre vie pour ne plus en sortir. Je m'arrête là pour la présentation, on verra pour la suite. J'ai le plaisir également d'accueillir Yolande Dufayet de la Tour. Bonjour Yolande.
Bonjour Sophie.
Merci d'être là. Vous êtes gestalt thérapeute, formée à la thérapie du lien, intervenante à la maison des familles du diocèse de Nanterre, à Boulogne-Biancourt. Vous intervenez au sein d'un groupe de parole autour de l'homosexualité. Vous êtes fondatrice du cabinet Arborescence.
Ouais.
C'est bien ça.
C'est ça.
Et puis j'ai le plaisir également d'accueillir Florence, qui est une maman catholique, pratiquante, maman d'un fils homosexuel.
C'est ça. Bonjour Sophie.
Merci d'être là également. Marie-Clémence Bordaniquez, pourquoi avoir écrit ce livre après combien d'années, une bonne dizaine d'années?
10 ans, voilà. 10 ans que j'ai rencontré Aurore. Je l'ai écrit parce que moi, quand je l'ai rencontré Aurore il y a 10 ans, j'avais aucun repère. J'étais complètement perdue et pendant toutes ces années, à chaque étape importante du mariage, la naissance de notre fille, etc., je me suis sentie très seule et sans repère parce que dans les médias, dans les films, les séries, etc., des femmes qui me ressemblent ou avec un parcours similaire au mien, il n'y en a pas beaucoup.
En tout cas, on n'en parle pas ou on ne leur donne pas la parole.
Exactement, on ne les met pas en lumière. Et j'ai manqué cruellement d'informations et je me suis dit, si mon parcours peut aider d'autres femmes à trouver des repères quand elles traverseront les mêmes choses que moi, je le fais. Voilà, j'avais juste envie de partager juste mon témoignage.
Mmh. Alors que vous teniez quand même au fur et à mesure un blog. Hein.
Voilà, c'est ça. Après la période des manifs pour tous, j'ai commencé à écrire. J'avais besoin d'écrire ce que je ressentais, parce que l'écriture est quelque chose qui m'aide beaucoup. Et petit à petit, je me suis dit, voilà, s'il y a des gens qui ont besoin de réponses, je peux peut-être les publier un petit peu sur mon blog. Donc, toutes les semaines, je partageais un chapitre de notre histoire. Et ce qui est devenu aujourd'hui un livre.
Marie-Clémence Bordaniquez, justement, vous parliez de la manif pour tous. Vous êtes donc d'une famille, qu'on peut dire bourgeoise, catholique,
oui.
Pratiquante.
Oui.
Une famille unie, une famille où tout se passe bien,
oui.
Où tout le monde s'aime.
Oui.
Classique.
Exactement.
Normal.
Oui, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai un cadre familial stable. Mes parents se sont rencontrés jeunes, se sont mariés vite, sont toujours très amoureux. J'ai 2 petites sœurs, un frère, et on a toujours formé une famille unis sans problème, voilà.
Avec une éducation classique.
Une éducation classique, la messe tous les dimanches, la prière le soir, voilà.
Yolande Dufayet de la Tour, ce que disait Marie-Clémence Bordaniquez, c'est vrai qu'on est souvent dans la représentation aujourd'hui, et encore aujourd'hui, de l'homosexualité, de clichés, de caricatures.
Oui, alors c'est difficile. D'abord, il y a déjà dire l'homosexualité, c'est presque déjà une erreur.
Mmh. On d'ailleurs, Marie-Clémence Bordaniquez, vous ne l'utilisez pas ce mot. Hein,
je n'utilise pas ce mot dans mon livre parce qu'il ne me correspond pas.
Ouais. C'est ça.
Alors donc du coup, c'est de dire que d'abord il y a des homosexualités, il y a plusieurs formes. Je trouve que ce qui est intéressant justement dans le livre, dans votre livre, c'est de montrer une des facettes. Qui est que peut-être on ne se définit pas ou l'identité se définit pas uniquement par son orientation sexuelle. Je pense que vous serez d'accord avec l'idée juste de dire, bah, en fait, elle aime une femme. Et je connais plein de personnes homosexuelles, enfin, qu'on pourrait nous dire de l'extérieur, elles sont homosexuelles, qui vous disent, bah, moi, je parle pas de moi de cette manière-là. Donc, c'est important de respecter la singularité de chaque histoire. Y a des personnes homosexuelles qui le savent très, très tôt. On a eu le témoignage d'un collègue à cette même antenne, il le savait vers 4 ou 5 ans. Il y en a qui hésitent, il y en a qui, au moment de l'adolescence, sont un peu confus. Il y en a qui, sortant de l'adolescence, sont tout à fait clairs, d'autres beaucoup moins. On voit des coming out de personnes dites hétérosexuelles, en tout cas dans des couples hétérosexuels avec des enfants qui font leur coming out. Donc, moi, j'ai envie de dire, on n'a pas forcément...
Ce qui interrogera sans doute beaucoup plus, et on le verra avec Marie-Clémence, l'entourage, la famille, ouais, les proches qui, à un moment donné, ne comprennent pas justement
oui,
ça.
Oui, mais ce qu'il faut aussi admettre, c'est que les personnes, pour elles-mêmes, parfois ne comprennent pas. Enfin, il y a une part de mystère, et moi, je n'ai pas tellement envie d'aller chercher des explications. Je ne pense pas que ça soit très,
d'où le
très
titre,
intéressant.
Hein, de voilà, votre livre, Marie-Clémence Bordenicaz, on ne choisit pas qui on aime.
C'est ça.
Florence, donc, votre fils... Lui est homosexuel. Comment vous l'avez appris? Est-ce que c'est lui qui est venu vous en parler? Est-ce que c'est lui qui a fait cette démarche aussi? Ou vous le pressentiez? Vous l'aviez deviné?
En fait, avec son père, on l'a pressenti très tôt. Et on s'est posé la question très tôt. Mais évidemment, c'est difficile d'aborder son enfant et de lui poser la question, surtout au moment de l'adolescence, etc., parce qu'on risque de tomber complètement à côté, on ne sait pas très bien. Le fait est qu'avec du recul, je me dis, pour mes autres fils, je ne me suis jamais posé la question. Donc c'est comme ça a commencé, en fait, comme ça. Ensuite, lui, il n'était pas prêt à nous le dire. Et en fait, on l'a su un peu par hasard, par un de ses frères, qui avait discuté avec une de ses amies, etc. Mais en fait, lui n'était pas du tout disposé à nous le dire. Donc, ça a commencé de façon un peu brutale, déjà pour nous. Donc, il avait, je pense, 18 ou 19 ans. Donc, c'est assez tard, en fait. Et ce n'était pas volontaire de sa part. Ça s'est un peu passé par hasard. C'est comme ça que ça a commencé. Donc, ça a été difficile ensuite de nouer tout simplement un dialogue avec lui, puisqu'il n'avait pas choisi de nous le dire. Et qu'en fait, dans sa tête, on l'a su après, il avait décidé d'en parler une fois qu'il partirait de la maison.
Mmh. Mais vous n'aviez pas non plus cette démarche, en tout cas, peut-être cette pudeur, cette délicatesse de ne pas de lui poser la question non plus.
J'ai pas osé, en fait.
Marie-Clémence Bordenicaz, on voit dans tout ce cheminement que il y a cette peur, il y a cette ignorance, il y a d'abord cette peur aussi peut-être d'en parler à la famille, aux parents d'abord.
Oui, moi j'ai eu peur, c'était une période très particulière parce qu'à la fois j'étais très amoureuse, très heureuse, tout ça a été très nouveau pour moi et voilà, ma vie a
débordé. Et dans ces cas-là, on a envie de le partager.
Exactement, j'avais envie de parler d'Aurore à tout le monde, j'avais envie que tout le monde sache que j'avais rencontré une femme extraordinaire. Mais je savais aussi que ça allait bouleverser quelque chose dans la famille. En fait, je me disais, le jour où je vais l'annoncer, il y aura quelque chose que je ne pourrai jamais revenir en arrière.
Parce que dans l'éducation que vous avez reçue, dans l'image peut-être que projetaient vos parents sur vous, c'est la vie toute tracée. Vous aviez un copain.
Oui, et puis j'étais la première en plus à jouer de ça. Et j'arrêtais pas de dire, j'épouserai un dentiste, j'aurai trois enfants, une
maison. La famille classique parfaite.
Voilà, j'étais la première à revendiquer tout ça. C'était même pas eux forcément qui me mettaient cette pression. Là, ça venait de moi et voilà, et je savais que quelque chose, en tout cas déjà pour moi, allait être complètement bouleversé et pour eux aussi. Vraiment, le jour où je leur dirais, ça y est, il faudra se lancer dans un long combat. Alors peut-être qu'à ce moment-là, je m'attendais pas à ce que ce soit un combat, mais je savais que ça allait être un cheminement qui allait être très long. Donc j'avais peur de leur dire.
Et en même temps, avec cette volonté aussi,
et en même temps,
le faire.
J'avais tellement envie de parler d'elle. Voilà. Donc, je me suis lancée.
Yolande Dufayet de la Tour.
Oui, je vous écoute avec attention et ça rejoint un peu ce que vivent pas mal de personnes, à savoir que quand on est avec son parent, on a envie de partager son intimité, les choses qui sont importantes. Et en fait, il y a la peur on a besoin de reconnaissance de ses parents, d'être confirmé dans son identité comme étant une belle et une bonne personne tel que l'on est.
Et dans ses choix aussi.
Et dans ses choix. Mais en même temps, c'est pas un choix d'être homosexuel. C'est pas un choix. Donc en fait, c'est quelque chose nous appartient de manière assez mystérieuse et singulière. Et on a juste besoin d'être accepté pour qui on est. Et c'est ça l'enjeu, en fait, du coming out, que ça soit pour, d'ailleurs, le coming out des personnes homosexuelles, que le coming out ensuite des familles. Parce qu'on va voir ensuite que ce qui est difficile pour la personne devient ensuite difficile pour les enfants. Et c'est ce que j'imagine vous pressentiez plus ou moins confusément, cette histoire dont on ne viendra pas en arrière. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est et qu'on ne choisit pas et qu'à un moment donné, il faut décider d'accepter ou pas.
Oui, voilà, moi, on m'a souvent parlé dans mon entourage de choix de vie. On me disait, le choix de vie que tu as fait, le choix de vie. Chaque fois, je leur disais, mais je n'ai pas choisi d'aimer une femme. Par contre, le choix que je fais au quotidien, c'est d'être avec la personne que j'aime et de ne pas m'en cacher et d'être juste en phase avec moi-même, de ne pas me mentir, de ne pas mentir aux gens.
Pas se poser la question, d'ailleurs, si c'est un homme ou une femme.
Voilà, en fait, c'est juste ce choix-là que je fais au quotidien. C'est juste d'être libre. Je n'ai pas choisi que ce soit une femme. Je n'ai pas choisi. J'aurais pas forcément préféré que ce soit un homme. La vie est comme ça. En fait, ça s'est imposé à moi.
Alors qu'on vous renvoie quand même à un moment donné, et on le verra peut-être par vos grands-parents aussi, où c'était quand même un peu plus compliqué. Ça l'est peut-être toujours aussi, un peu.
Mais, beaucoup moins, parce que le temps fait des choses absolument magiques. Aujourd'hui, mon grand-père n'est plus là, mais ma grand-mère, elle, a fait un... Je ne sais pas si c'est un effort, mais elle a fait un pas extraordinaire. Elle a vraiment rencontré Aurore à Noël. Elle a rencontré Charlie. Et puis, je pense qu'elle a juste vu qu'il n'y avait rien de grave. Voilà, tout le monde va bien, notre fille va bien, Aurore s'en occupe très bien, et je pense qu'il y a beaucoup de préjugés qui sont tombés. Et voilà, en tout cas, je pense que l'alerte qu'il y avait en permanence en elle à ce sujet-là s'est apaisée. Voilà. Après, je pense que ça reste quand même douloureux pour elle, parce que la religion, pour le coup, a une place très importante dans sa vie, et elle a vraiment la sensation, et c'est ce qu'elle m'a dit, tu n'as pas su résister aux tentateurs. Donc pour elle, il y a vraiment...
Parce qu'à un moment, elle vous dit, effectivement, vous êtes laissé entraîner, en fait. C'est presque un caprice.
Pour elle, je me suis complètement laissée embrigader par une femme. Elle me disait, mais c'est elle qui t'a forcée au mariage, etc. Alors, je lui dis, bien au contraire. C'est-à-dire qu'Aurore n'avait pas envie de se marier et moi, j'en avais envie. Voilà. Pour elle, je me suis laissée avoir par quelque chose. Voilà. Je n'ai pas résisté.
Florence, qu'en était-il aussi pour votre fils? Comment vous avez cheminé, vous, dans votre famille, par rapport à cette découverte, à cette annonce qui, finalement, ne s'est pas faite directement? Qu'est-ce qui s'est passé en vous, à ce moment-là?
Au début, c'est... En fait, j'avais espéré, je m'étais dit... J'attends qu'il ait une petite amie et mes inquiétudes vont tomber.
Pourquoi ces inquiétudes?
Je ne sais pas, quelque chose qu'on sent, et je me disais, je ne suis pas armée pour gérer ça. En fait, je me disais, mes enfants peuvent faire tous les choix qu'ils veulent, etc. Mais là, je sentais que sur ce point-là, je n'arriverais pas à gérer la situation de façon sereine.
Par rapport à votre foi, entre autres?
Par rapport à ma foi, par rapport à ma culture familiale, etc. Moi, je viens d'un milieu catholique, pratiquant... où l'homosexualité, ça ne fait pas partie des choses qui arrivent, ça arrive aux autres. Voilà. Mmh. Alors moi, j'ai rencontré plein d'homosexuels dans ma vie, ça ne m'a jamais dérangé, c'est des amis, voilà. Mais je m'étais dit, si c'est mon fils, je ne vois pas comment gérer cette situation. Donc au début, c'est la douche froide, c'est à qui je vais pouvoir faire appel pour m'aider. Pas question d'appeler la famille, les parents, je n'osais pas le dire aux amis, etc. Il y a une espèce d'anxiété au début qui est très très forte. Et puis, à la suite de quoi, finalement, en fait, on trouve des aides, on trouve des relais, on chemine. Et en fait, c'est une expérience, moi, personnellement, qui m'a fait beaucoup grandir. Dans ma foi, dans ma vie, dans ma vision des choses. Mmh. Ça a été une très belle expérience et ça continue de l'être parce que ce n'est pas du tout fini.
Ce n'est pas du tout fini. Non. Alors, et puis dans la famille élargie aussi. Parce qu'il
voilà, dans la famille élargie. Alors, c'est vrai que pour le père, ça a été une situation aussi difficile à accepter. Ça a été beaucoup de larmes.
Beaucoup de larmes, pourquoi? Parce que tout d'un coup, on s'aperçoit qu'il faut renoncer à quelque chose par rapport à son enfant.
On a peur pour lui, parce qu'on se dit c'est une situation qui est en marge. Et on se dit c'est toujours difficile de vivre une situation en marge. Comme l'a dit Yolande plusieurs fois, on est dans une société complètement hétéronormée. Et du coup, c'est difficile d'accepter, enfin de se dire, mon enfant va vivre en tant que entre guillemets marginal, c'est-à-dire mais au sens statistique du terme, voilà, il n'est pas dans les dans la majorité de la population. Donc c'est toujours un petit peu délicat de se dire comment vivre avec dans une minorité, quelle qu'elle soit. C'est pas une question forcément d'homosexualité, mais de se sentir dans une minorité, c'est toujours difficile.
En tout cas, de ne pas en souffrir et d'un, voilà. Aussi c'est cette peur pour son enfant.
Cette peur pour son enfant, oui, oui, voilà.
Alors, dans l'accueil, en fait, de cette orientation sexuelle des enfants, les familles ont plusieurs attitudes. Alors, autrefois, il y avait l'idée que l'homosexualité était une tare. Après, peut-être est-elle une maladie. Donc, on l'entend encore. Hein.
D'ailleurs, un péché, comme le dit.
Un péché dans l'Église catholique. Et donc, en fait, là, aujourd'hui, en tout cas, l'expérience que j'ai à la Maison des Familles depuis plus de 4 ans, ou tous les mois,
au diocèse de Nanterre,
tous les mois, des parents viennent échanger, des familles enfin viennent échanger sur ce thème. Il y a plusieurs craintes qui surgissent. Maintenant, j'allais dire, on connaît un peu mieux ce qui se passe, ou en tout cas, c'est mieux accepté. Mais il y a vraiment l'idée, est-ce que mon enfant va être heureux? Parce que du fait de cette marginalité, de cette difficulté, d'abord trouver quelqu'un, non pas qui est homosexuel, mais quelqu'un qui correspond à ses goûts et qui a la même orientation sexuelle. Donc ça, c'est une des inquiétudes majeures des parents, c'est le bonheur de leurs enfants. Et puis, je dois dire, en ce moment, j'allais dire depuis 2 ans, je crois qu'à chaque groupe, il y a des parents qui expriment leur crainte que leurs enfants, notamment à Paris, soient agressés.
On l'a dit dans l'introduction, il y a eu le rapport, donc l'enquête qui est sortie il y a quelques jours sur l'augmentation des actes homophobes et discriminatoires.
Donc les parents, maintenant, je les entends partager en disant, je dis à mes enfants, surtout ne te donne pas la main avec ton copain, ou ne vous embrassez pas, ou surtout ne montrez rien. Non pas parce qu'ils refusent l'homosexualité de leur enfant, mais parce qu'ils ont peur des agressions homophobes qui sont quand même en... Donc oui, il y a quand même une espèce de climat social. Alors à la fois, on envoie aux personnes homosexuelles et à leur famille que oui, mais maintenant, c'est plus un problème, tout le monde accepte. Et en fait, de manière assez contradictoire, il y a quand même des actes d'agression homophobe.
Allez, on poursuit évidemment cette émission autour de cet accueil de l'homosexualité, de l'annonce à sa famille, et comment le vivre avec ses proches aussi, et puis vivre peut-être de façon normale, complètement, voilà, comme une famille. On se retrouve juste après cette première pause.
En quête de sens, 01 56 56 44 00.
Bruno Courtois, Louis Dauphrène.
Après une année de pause, Radio Notre-Dame repart en Terre Sainte pour une semaine de pèlerinage et de rencontres.
Du 17 au 24 novembre, venez découvrir avec nous un autre visage de la Terre Sainte grâce aux invités que vous verrez sur place.
C'est un regard nouveau sur ce pays que nous vous proposons depuis Tibériade, Capharnaüm, Jéricho ou Jérusalem.
Venez avec nous du 17 au 24 novembre.
Et renseignez-vous au 01 41 12 04 80 ou sur le site ictusvoyage.com.
Chaque jeudi, Paris Notre-Dame vous informe sur l'essentiel de la vie de l'Église catholique à Paris et vous propose des pistes de réflexion et d'engagement. Quels sont les liens entre l'Europe et l'Église? Pourquoi celle-ci appelle largement à voter lors des prochaines élections européennes fin mai? Une enquête de Paris Notre-Dame. Abonnez-vous au journal du diocèse de Paris en appelant le 01 78 91 92 04 ou en allant sur le site internet paris.catholique.fr.
Vous possédez des bijoux anciens ou signés, des diamants, de l'argenterie ou des montres anciennes de grandes marques dont vous souhaitez vous séparer?
Recyclor, expert en métaux précieux dans le 6e arrondissement à Paris, rachète en toute discrétion vos valeurs.
Recyclor reprend également vos lingots, pièces cotées, platines, débris ou tout type de bijoux en or et en argent.
Recyclor, paie vos biens comptant le jour même après estimation. Expertise gratuite.
Recyclor, 29 rue des Saints-Pères, Paris 6e, 01 42 60 24 24 et sur recyclor.com.
En quête de sens, Sophie Noaille.
Marie-Clémence Bordeniquez, qui vient de publier cet ouvrage « On ne choisit pas qui on aime » aux éditions Flammarion. Je suis chrétienne, bourgeoise et mariée avec une femme. Plus largement, on parle évidemment de cette acceptation et de l'annonce à sa famille, à ses proches, de son homosexualité et de vivre en couple avec une personne du même sexe et de fonder une famille. On en parle également avec Yolande Dufayet de la Tour, gestalt-thérapeute, intervenante à la Maison des Familles de Boulogne Marianne Biancourt du diocèse de Nanterre, au sein d'un groupe de parole donc autour de l'homosexualité, fondatrice aussi du cabinet Arborescence, et puis Florence, maman catholique pratiquante dont le fils est homosexuel. Florence, j'allais dire, pourquoi d'ailleurs préciser que vous êtes catholique pratiquante? Vous êtes d'abord une maman.
Ah oui, c'est tout à fait.
j'allais dire, mais c'est vrai que le vivre dans sa foi catholique, c'est difficile. Est-ce qu'il y a quand même...
C'est difficile parce que il suffit de lire le catéchisme de l'Église catholique. Avec les paragraphes qui sont consacrés à cette question, et c'est d'une violence extrême pour des parents, pour des homosexuels chrétiens, enfin qui ont la foi. C'est vraiment difficile. On nous balance à chaque fois les passages du Lévitique comme ça, en nous disant bah c'est ça la référence, c'est ça la norme, alors que en fait il faut réfléchir là-dessus. Et l'Église catholique, à mon sens, c'est peut-être un peu prétentieux de ma part de dire ça, mais doit avancer dans sa réflexion, dans sa pensée. Alors, je ne blâme pas l'Église en tant que telle. Je pense que de toute façon, d'une façon générale, il faut penser cette situation de l'homophilie. Il faut la penser. Il faut déjà... alors, sur le plan scientifique, est-ce qu'on avance? Est-ce qu'on explique, etc.? Comme dit Yolande, c'est peut-être pas l'essentiel. Non. Mais en tout cas, au niveau de la pensée philosophique, théologique, il faut avancer sur cette question, même si on n'arrive pas à expliquer l'origine de cette situation. Donc l'Église, bah, du coup, qui est toujours un petit peu un train après, mais c'est pas un reproche de ma part, c'est bien que l'Église, elle prenne du recul par rapport aux choses qui se passent dans l'histoire, qu'elle attende de voir ce que la science dit pour elle-même apporter sa réflexion, c'est très bien, mais il faut vraiment, il y a un besoin d'avancer en pensée pour penser cette situation. On manque de ça. On est d'une ignorance crasse, je dirais, aussi bien chez les athées que chez les croyants, d'ailleurs. C'est pas
tellement... Alors qu'il y a différents groupes, justement, quand même, qui se développent dans les diocèses
d'accueil et de parole. Tout notre espoir est là.
Marie-Clémence Bordet-Niquez, vous, ça bouleversait évidemment aussi vos valeurs, votre foi, à ce moment-là, oui. Alors qu'on est en pleine manif pour tous et que vous avez des amis même qui affichent ouvertement et qui ont manifesté.
Cette période-là a été très, très douloureuse pour moi parce que vraiment, je me suis retrouvée confrontée à la Marie-Clémence de mon enfance et à celle que je suis aujourd'hui. Vraiment, j'allumais la télévision et puis je voyais toutes ces familles catholiques qui ressemblaient à la mienne. Je voyais certains membres de ma famille plus élargie, etc. Sur les réseaux sociaux, qui faisaient des selfies au milieu des manifs et qui, à côté, avaient un discours très accueillant avec Aurore et moi, nous saluer, réunion de famille, etc. Donc je comprenais pas. D'un coup, j'étais totalement dépossédée de mon histoire. Il s'agissait plus de juste Aurore et moi, Marie-Clémence. J'étais un couple parmi tant d'autres homosexuels. On me mettait dans une communauté, dans une case, et puis on me balançait comme ça sur la place publique. Et puis des gens étaient en train de manifester tout sourire pour dire voilà, toi tu n'as pas le droit de te marier, vous n'êtes pas digne d'avoir un enfant avec Aurore, vous allez rendre cet enfant malheureux, etc. Pour moi, c'était très très douloureux parce que vraiment je me sentais rejetée parce que par mon socle familial, par ce qu'on m'avait inculqué. Et à cette époque-là, mon rapport à l'Église a été un petit peu bouleversé aussi. J'étais encore pratiquante. Et puis je continuais d'aller à l'Église. Et puis une fois, deux fois, on m'a distribué des tracts pour aller aux manifestations à la sortie de l'Église. Une fois, deux fois, certains prêtres faisaient des allusions dans leurs homélies aux manifestations. Puis à un moment, je me suis dit, mais je peux plus continuer ça. J'ai la foi, ma foi, elle est intacte, mais là, c'est trop douloureux. Il y a quelque chose, je ne peux pas jouer à l'autruche. À un moment, il faut aussi que je sois en phase avec moi-même jusqu'au bout. Ils ne sont pas d'accord, ils me rejettent. Je suis là, donc je vais partir. Je vais prendre un petit peu mes distances. Et petit à petit, voilà, aujourd'hui, j'ai un rapport plus serein par rapport à tout ça. Disons que j'ai grandi, tout simplement, je suis devenue adulte. Donc j'ai compris que l'Église est une institution dirigée par des hommes et que comme... Pour tout, il y a du bon et du moins bon, et que j'ai le droit d'avoir une foi, j'ai le droit d'aller à l'Église quand je le ressens, quand j'en ai envie, et non plus d'être obligée de répondre à certaines normes. Et voilà. Mais après, notre fille Charlie sera baptisée cet été. Pour moi, c'est important, c'est très important.
Et vous avez pu en discuter justement avec des personnes, avec des amis justement qui ont participé à ce genre d'actions, ces manifestations?
Alors on a souvent évité le sujet parce que je savais exactement quels arguments allaient être avancés, défendre les valeurs de la famille, etc. Et Je pense que j'ai juste évité le sujet, eux aussi. J'avais envie de préserver au maximum les bonnes relations que j'avais avec eux. Donc, mais c'était une période très particulière. C'est-à-dire qu'on se retrouvait à certaines réunions de famille comme si de rien n'était. Et puis, je savais très bien que quelques jours avant, ils étaient en train de manifester. Et puis, moi, sur les réseaux sociaux, je manifestais dans le sens inverse. Donc, c'était une période particulière.
Yolande Dufayet de la Tour.
Oui, j'anime ce groupe en tant que psychothérapeute. C'est un groupe au sein du diocèse. Il y a donc beaucoup de personnes qui vivent cette espèce de déchirement entre leur foi, leur rapport à l'Église et particulièrement en fait à l'institution. Alors, il y a des prêtres ouverts, accueillants, et puis il y en a d'autres qui le sont beaucoup moins. Donc les parents, j'allais dire, essayent, et d'ailleurs le groupe de parole a pour fonction d'essayer ensemble de trouver un chemin. Et d'abord, il y a un chemin pour chacun qui est d'ailleurs assez différent d'une personne à une autre. Et il s'agit de cheminer avec un certain nombre d'exigences, les exigences évangéliques, l'appartenance à l'institution, et puis bien sûr le soutien inconditionnel à leur enfant. Et donc au milieu de ces trois piliers qu'il va falloir essayer de mettre ensemble, parfois il y a un peu de paradoxe à résoudre. Donc chacun font des chemins. Alors ce que je vois, c'est qu'il y a des parents qui plus ou moins progressivement quittent l'institution, comme il y a des personnes homosexuelles qui ont déjà beaucoup déserté l'institution. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas la foi, d'ailleurs, c'est ce que dit Marie-Clémence. Donc oui, c'est un chemin difficile, mais on rencontre, enfin bon, il y a chez DUEC, Devenir un en Christ, qui est une association de catholiques qui travaille sur cette harmonie entre ces deux pôles, être une personne homosexuelle, avoir la foi et la vivre en l'Église. Il y a David et Jonathan, il y a la communion Béthanie. Donc les catholiques, finalement, progressivement s'organisent pour essayer de vivre et leur foi et leur orientation sexuelle.
Florence.
Oui, je confirme tout à fait ce que vient de dire Yolande. Moi, c'est vrai que dans les premiers temps, je me suis dirigée vers l'association DUEC, Devenir un en Christ. Et je dois dire que ça m'a, voilà, ça a été la main secourable que j'attendais, avec une écoute, une ouverture, et puis surtout.
Pourquoi la main secourable?
Parce que je me sentais toute seule, en fait. Je me sentais toute seule, je ne me sentais pas proche du militantisme LGBT et je ne me sentais pas proche de l'Église non plus. Donc je me suis dit, bah, je suis où là? Je fais comment? Et cette association vraiment m'a beaucoup, beaucoup aidée. D'abord parce que j'y ai fait une expérience absolument incroyable et que je souhaiterais à tout le monde. C'est que au début, j'y étais alors, avec ce que j'étais à l'époque, c'est-à-dire une catholique pratiquante vivant dans la banlieue ouest, ayant fait le catéchisme dans des écoles privées, etc. Enfin, bien tout comme il faut, quoi. Je me suis retrouvée, je me suis retrouvée dans une messe avec que des personnes homosexuelles, de tous bords, de tous âges. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? Comment la vie m'a fait atterrir à cet endroit-là? Et peu à peu, j'ai tissé des liens avec toutes ces personnes avec lesquelles je n'avais aucun point commun à la base, si ce n'est la foi. Donc en fait, je me suis dit, on n'a rien à voir, mais on est unis parce qu'on partage un petit bout de croix ensemble. Et ça, c'est d'une force, c'est un lien, c'est une communion. Là, j'ai vécu la communion, en fait, dont on parle dans l'Église, mais pour la première fois de ma vie. Et je me suis dit, mais si je n'avais pas eu ce chemin-là, si je n'étais pas passée par là, je serais restée dans mon petit univers, à avoir l'impression de vivre la communion parce que j'allais à la messe à côté de chez moi et que je retrouvais mes copines, et etc. Mais en fait, non. La vraie communion en Église, je l'ai vécue dans ce contexte-là, ce qui était totalement inattendu. Et aujourd'hui, je dis merci mon Dieu. Je n'ai pas d'autres mots.
Marie-Clémence.
Oui, moi je pense que c'est ce qui a manqué à mes parents et surtout ma mère.
Votre mère a réagi différemment de votre père.
Hein. Oui, bon, mon père, disons, a peut-être plus de filtres. Et lui, il s'est inquiété pour moi. Mais il m'a dit, le jour où je lui ai annoncé, il m'a dit, écoute, il y a ce qu'on projette pour ses enfants, il y a ce qu'on aimerait qu'ils soient, puis il y a ce que nos enfants sont vraiment. Ce n'est pas parce que tu n'es pas celle qu'on avait imaginé que tu serais qu'on t'aime moins.
Vous le dites, cette phrase résonne encore dans ma tête.
Hein. Oui, j'y pense. C'est-à-dire qu'il m'a garanti de son amour inconditionnel, l'amour inconditionnel des parents. Et ça m'a rassurée. Après, il m'a aussi exposé ses inquiétudes, parce qu'à l'époque, on ne parlait pas encore vraiment de mariage pour tous, on ne parlait pas de PMA, etc. Il m'a dit, tu te rends compte que tu vas devoir dire adieu à tous tes rêves. rêve de fonder une famille, etc. Mmh. Ils ne savaient pas que à cette époque-là, je n'avais aucune intention de renoncer à tout ça. Et pour ma mère, c'était très douloureux et elle avait du mal à me l'expliquer parce qu'elle me disait « Tu ne peux pas comprendre, je suis mère, je suis ta mère, il y a quelque chose que je ne peux pas expliquer. Je sais que tu n'es pas homosexuelle. » Elle avait peur que je confonde mes sentiments parce que Aurore a 8 ans de plus que moi. Elle s'est dit bah, peut-être que tu confonds l'amitié et l'amour. C'est peut-être juste quelqu'un pour qui tu as une grande admiration.
C'est le prolongement d'une période de l'adolescence, peut-être.
Peut-être, voilà. Et vraiment, elle avait du mal. Elle avait du mal. Et c'est là où je vous rejoins, c'est qu'elle s'est sentie très, très seule. Et l'église a une place très importante au quotidien dans la vie de mes parents. Ils sont très actifs dans la paroisse, etc. Et pour eux, je pense que, enfin, surtout pour ma mère, elle s'est sentie totalement isolée et je pense qu'elle n'avait pas envie, comme vous le disiez, de se sentir appartenir aux parents d'homosexuels. Elle n'avait pas envie, parce que moi, je l'encourageais, je lui disais, mais va parler à d'autres parents, tu n'es pas la seule en France à avoir un enfant homosexuel.
Mais par peur du regard des autres ou par ses propres convictions?
Je pense c'était un mélange des deux. Elle voulait pas, elle se sentait pas prête à en parler. Et en même temps, elle s'enfermait vraiment dans cette solitude. Elle n'arrivait pas à s'en sortir. Donc, je sais qu'elle en parlait un petit peu à un prêtre ou ils avaient un groupe équivalent des équipes Notre-Dame. Mes parents avaient un groupe à l'époque. Donc, je sais qu'ils en parlaient un petit peu. Mais c'était des gens qui ne les comprenaient pas forcément. C'est-à-dire qu'ils les soutenaient, mais qui leur apportaient aucune réponse, ne les rassuraient pas. Et vraiment, ma mère s'est un peu murée dans cette souffrance, parce que c'était une vraie souffrance pour elle. Ça a mis énormément de temps.
Mais ce que vous dites à propos de votre papa, c'est très beau. Donc, par rapport à ce qu'il vous disait tout à l'heure, il me découvrait tel que j'étais ce soir-là, tel que je suis, nous nous rencontrions, en fait.
Oui, c'est la sensation que j'ai eue. C'est qu'il y a un moment, je crois, quand j'ai eu la sensation d'être une adulte et puis de... Oui, qu'on se rencontrait une deuxième fois, voilà, qu'on se découvrait et il fallait réapprendre à s'aimer tel qu'on est. Voilà.
Et qu'il a découvert que ce qui vous animait, ce qui vous guidait, c'était finalement juste l'amour.
Oui, voilà. Mon père sait que c'est ce qu'il a dit aussi le jour de notre mariage avec Aurore. Il a fait son discours et il nous a dit voilà, je sais que tout est guidé par l'amour, donc tout va bien. Et c'est ce que j'ai répété sans cesse à mes parents et à tous ceux que ça a pu gêner. Je leur disais, il ne s'agit que d'amour. Je ne fais rien de mal. Personne ne souffre. Soyez rassurés, je vais bien. On va bien, voilà.
Yolande Dufayet de la Tour.
Oui, je trouve que ce qui est mis en lumière, c'est l'ignorance, en fait. Qui est
la peur et l'ignorance.
La peur et l'ignorance, mais l'un va avec l'autre, qui est à la source, en fait, de beaucoup de souffrances, que sont la culpabilité, la honte. Une des questions, c'est notamment pour les personnes qui sont catholiques, c'est le manque de formation, en fait, hein, des prêtres. C'est cruel. Enfin, en tout cas, ça, c'est le discours des parents. Je ne sais pas, j'ai dû rencontrer plusieurs centaines de parents depuis 5 ans et puis depuis que je suis psy. Tous, pour ainsi dire, alors il y a des exceptions, hein, je ne suis pas en train de dire tous les prêtres, mais quand même, de manière majoritaire, ils ne sont pas du tout au fait de ce qu'est l'homosexualité, qu'est-ce qui se vit. Il y a beaucoup de stéréotypes, ils sont comme les autres hommes et les autres femmes de la société qui ont beaucoup d'ignorance.
Ce sont des images, parfois, on le disait tout à l'heure, clichés, caricaturales, qui sont renvoyées.
Les clichés, beaucoup des médias. Et donc, du coup, l'accompagnement que les personnes catholiques seraient en droit d'obtenir, en fait, auprès de leur curé, auprès de certains groupes religieux auxquels ils appartiennent, enfin, des cercles d'appartenance, en fait, qui font partie de la construction identitaire de chaque personne, ils ne trouvent pas le soutien. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a monté le groupe à Boulogne. Alors, moi, j'ai proposé mon aide en tant que professionnelle à la suite des manifs pour tous qui m'ont bouleversée de violence, enfin la violence qui était exprimée, et donc j'ai eu envie de faire quelque chose. Ça a rencontré une initiative d'une autre personne, Nathalie de Villancourt, qui avait cette idée de monter ce groupe. Et l'idée, enfin, je pense que dans ce groupe, les personnes peuvent trouver les ressources dont ils ont besoin, notamment un minimum d'information, de soutien que les prêtres...
L'écoute d'abord.
De l'écoute et puis de l'information. Il y a des choses quand même à savoir. Et je vois à quel point c'est difficile. Enfin, je rencontre des prêtres, des évêques. on a du mal à leur faire admettre qu'il faudrait une formation à la vie affective et sexuelle dans les séminaires et même en formation continue. Hier soir, j'étais à la procure, j'écoutais Marie-Jo Thiel qui s'exclafait du même problème, c'est-à-dire le manque de formation et la difficulté que ces hommes-là ont à faire entrer des professionnels et des femmes pour se former à ce sujet-là. Et du coup, par ricochet, leur fidèle manque de soutien, et ça, c'est dommage.
Allez, on va poursuivre cette émission en quête de sens. On va écouter Julien Clerc et on se retrouve juste après.
Radio Notre-Dame.
Le grand amour, faut dire, c'est pas souvent. Ça ne se croise pas au coin du moindre instant. C'est tellement beau, tellement tout simplement. C'est tellement chaud, tellement tendre et brûlant. Nos vies fanées sans un pourquoi, inconsolables et pleines d'effroi. Nos vies et la mort à leurs pieds, nos pas sans savoir où aller. Grand amour ne se pose pas de questions, il ne résout pas plus qu'il ne répond. Il ne fait rien, mais mon Dieu, comme c'est bon, ce grand amour et son soleil de plomb. Nos vies insensées sans répit, nos jours de gloire et leur oubli, nos jours d'espoir, nos jours de pluie, nos vies dérisoires et bénies. Le grand amour va nous sauver de tout, de nos cœurs lourds, de nos âmes à genoux, de nos chimères, il peut faire un abri, de nos mystères, il sait faire une vie. Nos vies savoureuses comme le sel, nos vies de tendresse et de miel, nos vies qui valent d'être vécues, nos vies merveilleuses et perdues. Le grand amour, c'est sûr, c'est pas souvent, c'est pas toujours, c'est rare, c'est envoûtant, c'est pas légion, ça n'est pas bien fréquent. Le grand amour, c'est Dieu, comme un instant. C'est pas légion, ça n'est pas bien fréquent. Le grand amour, c'est Dieu comme un instant.
Le grand amour, Julien Clerc. On parle aujourd'hui de l'homosexualité, mais on a dit qu'on n'en parlait pas finalement. On parle de l'amour. On ne choisit pas qui on aime. Le récit, donc, écrit par Marie-Clémence Bordet-Niquez aux éditions Flammarion. Je suis chrétienne bourgeoise et mariée avec une femme. On en parle également avec Yolande Dufayet de la Tour, gestalt-thérapeute, intervenante à la Maison des Familles de Boulogne-Biancourt, du diocèse de Nanterre, intervenante donc au sein de ce groupe de parole autour de l'homosexualité et fondatrice du cabinet Arborescence. Et puis Florence, maman catholique pratiquante dont le fils est homosexuel. Marie-Clémence Bordet-Niquez, à un moment donné, évidemment, les choses ont évolué avec Aurore. Et puis, il y a eu ce voyage à New York.
Voilà,
et la question du mariage.
Voilà. Aurore était... Le mariage n'est pas forcément une étape qui était essentielle pour elle.
Pour
en
elle.
Tout cas, voilà, elle y a... Elle pensait y échapper, et puis elle m'a rencontrée.
Mais pour vous, ça correspondait aussi
pour moi, c'était
à votre idéal de vie.
Bien sûr, j'en avais envie. Ça faisait partie des étapes importantes de la vie. Je savais que l'Église ne me le permettrait pas, mais qu'à partir du moment où je pouvais le faire, au moins dans une mairie, j'en avais besoin. J'avais envie qu'on soit reconnus comme un couple sur notre état civil. J'avais besoin de cette reconnaissance, encore une fois. Et j'avais très envie de... de rassembler nos deux familles le temps d'une journée, me dire que oui, on l'a fait, on a réussi. Mmh. Et voilà, donc Aurore a sauté le pas avec moi le 20 juin 2015. On s'est mariés dans le Sud-Ouest.
Mmh. Et effectivement, mais il y a eu l'annonce quand même d'abord à vos parents et vous avez choisi de leur écrire.
Voilà, ça a été, j'étais terrifiée. C'est-à-dire qu'à la fois, j'étais très heureuse de ces fiançailles et en même temps terrifiée parce que je me suis dit, bon, ben maintenant, il va falloir l'annoncer. Et puis, ils vont pas sauter de joie. Et je leur ai écrit. Parce qu'en fait, je ne me sentais pas prête à leur annoncer de vive voix. J'avais trop peur de cette réaction à chaud. J'avais peur de voir de la déception, de la tristesse, de la colère. Je ne sais pas, dans leur regard. Et je me suis dit, ça, je ne m'en remettrai pas. Voilà. Les avoir vus sauter de joie à l'annonce du mariage de mes frères et sœurs, c'était, j'avais rêvé que ce soit la même chose pour moi. Et je savais que ça ne serait pas pareil. Voilà. Donc, je me suis dit, je vais me préserver de ça. À l'époque, je voyais une thérapeute avec qui j'en avais parlé. Et elle m'avait dit, vous n'êtes pas obligée de leur annoncer au téléphone ou physiquement, vous avez le droit de vous protéger aussi, peut-être juste de leur écrire. Donc je leur ai écrit une lettre où je leur ai annoncé ce projet qu'on avait avec Aurore et où je leur ai expliqué que j'espérais de tout mon cœur qu'ils me soutiennent, ou en tout cas qu'ils m'accompagnent jusqu'au jour J. Et voilà, ça a été un long travail. Encore une fois, mon père l'a un peu plus accepté, plus vite. Il savait que ça arriverait. Je pense que voilà, la loi était passée et il savait que ça faisait partie de mes projets. Pour ma mère, ça a été plus compliqué parce qu'elle ne comprenait pas. Elle me disait, mais pourquoi est-ce que vous voulez vous marier? C'était, encore une fois, elle était perdue, tiraillée entre ce qu'on nous inculque au catéchisme, à l'église, et puis cette réalité en face de me voir et de voir que oui, j'ai envie de me marier avec Aurore. Donc ça a été un an, c'est un an de fiançailles, ont été un an de préparation pour tout le monde, chacun à son rythme. Et voilà, ma mère s'est réveillée quelques temps avant le mariage, vraiment quelques semaines avant. Mais elle m'a proposé son aide et elle m'a accompagnée sur la dernière ligne droite, elle était là le jour J. Et voilà, et j'ai le sentiment que finalement, encore une fois, le fait de se connecter à la réalité, le fait de voir juste qu'en face, il y a deux femmes qui s'aiment, qui sont en train de se marier, leurs amis, leurs familles sont là, tout le monde va bien, c'est un moment de bonheur et d'amour. Ça a fait tomber beaucoup de barrières et elle a laissé faire, elle a laissé venir tout ça à elle, en fait.
Florence, finalement, avec votre fils, alors que le dialogue n'a jamais été rompu de toute façon, mais comment ça se passe ?
Oh bah aujourd'hui, la situation, elle est claire. Maintenant, ça fait quand même plusieurs années qu'on vit avec cette réalité. Donc maintenant, je peux dire qu'elle est... moi, je l'ai, voilà, elle est assimilée, elle fait partie de ma vie. Mon fils, quand il a eu une relation très difficile avec quelqu'un il y a 2 ans, il m'en a parlé, il m'a raconté. Ça m'a fait un plaisir immense parce que j'ai senti sa confiance. Il s'est vraiment confié à moi et ça m'a fait vraiment plaisir. Là, il m'a parlé récemment d'une nouvelle relation qui était en train de commencer et qui se passait bien. J'étais à nouveau extrêmement touchée qu'il me confie ça. Et je l'accompagne là-dedans. Je ne connais pas encore cette personne, mais vraiment, je me sens prête à l'accueillir. Et voilà, ça fait partie de sa vie. C'est sa vie affective et qu'il m'en parle. Moi, c'est un grand bonheur.
Yolande Dufayet de la Tour, effectivement, parfois les parents, les proches, la famille peut accepter, mais de là parfois à accueillir et à accueillir à sa table le couple ou à aller jusqu'à justement cette démarche du mariage ou même d'inviter, parce que Marie-Clémence le raconte aussi beaucoup dans son livre, dans les célébrations, dans le mariage de sa sœur, etc., dans les fiançailles. C'est difficile de se présenter en couple dans la famille.
Oui, alors c'est j'allais
accueillir
dire
accueillir l'autre.
En fait, c'est un chemin en fait entre parents et enfants, et c'est un processus. Je prends souvent l'image de la courbe du deuil de Kubler-Ross pour dire que bon, il y a le moment où on est sidéré d'apprendre que son enfant est homosexuel, puis ensuite on se débat, on est en colère, on est triste, on se sent complètement perdu, on peut être dans la honte de le dire aux autres, dans la culpabilité de ne pas avoir fait ce qu'il fallait faire. Et puis progressivement, on sort de cet état de sidération et dans lequel on se débat pour aller progressivement vers l'acceptation. Alors, l'acceptation, même dans l'acceptation, il y a plusieurs étapes et plusieurs niveaux. Quand Marie-Clémence disait « pour maman, ça a été difficile » et la dernière ligne droite, elle a pu la faire, mais c'est vrai que... il faut renoncer, il faut faire le deuil de ses projections et de son idéal pour son enfant. Et on en a tous, d'une certaine manière, tant mieux, mais il faut savoir aussi les lâcher le moment venu. Et c'est pas toujours très facile. Donc, quand elle dit à sa fille, enfin bon, t'es vraiment sûre, enfin, pourquoi tu cherches à te marier ? C'est encore ce qu'on appelle, nous, l'étape de marche.
Oui, quel est l'intérêt ?
En fait, dans la courbe du deuil, c'est l'étape du marchandage. C'est-à-dire, je peux accepter l'homosexualité, ok, d'accord, mais non, te marier, c'est pas possible. Ou c'est, je veux bien que mon enfant soit homosexuel, mais je veux pas voir son copain. Et donc, en fait, accepter de voir le copain, la compagne, et ensuite le mari et la femme, ça fait partie de l'acceptation, en fait. Mais dans l'acceptation, il peut y avoir des moments d'avancée, de recul. Ça met du temps, en fait, parce qu'il faut juste faire le deuil de ce qu'on a projeté pour son enfant. Et ça, c'est long.
Oui. Marie-Clémence.
Oui, ma mère a mis un petit peu de temps à effectivement accepter toute cette situation. Et moi, j'insistais pour qu'elle rencontre Aurore. Parce que je lui disais, mais tu verras, quand tu la verras, tu verras que c'est une femme, c'est un être humain, et tous tes préjugés vont tomber et tu accepteras bien mieux la situation. Et ma mère a mis du temps à l'accepter. Elle a reçu Aurore à la maison et effectivement, elles se sont très bien entendues. Encore aujourd'hui, elles s'entendent vraiment bien. Elles ont plein de points communs et voilà, elles adorent faire plein de choses toutes les deux. Mais ma mère m'a très vite dit à un moment, j'avais presque raté mon pari dans un sens que je n'avais pas prévu. Elle m'a dit, mais j'aime Aurore. Aurore fait partie de la famille. Je la considère comme mes autres beaux-enfants. Mais je n'arrive pas à vous intégrer comme un couple. Pour elle, Aurore avait intégré la famille comme un autre enfant. Mais on n'était pas un couple, toutes les deux. Il y avait vraiment cette notion qu'elle n'arrivait pas à intégrer.
Oui, il faut faire le deuil de sa représentation de ce qu'est un couple marié. C'est-à-dire, c'est une réalité intellectuelle aussi. Et donc, après, quand on est confronté à la réalité, c'est notre réalité incarnée. Et parfois, on peut intellectuellement dire bah, l'homosexualité chez les autres, ça va, mais chez moi, non. Le couple hétérosexuel, oui, mais homosexuel, non. Ou le couple homosexuel pour les autres, oui, mais pour nous, non. Donc, en fait, c'est tous ces degrés d'acceptation qui sont très différents d'une famille à une autre.
Florence.
Oui, c'est vrai que c'est très différent d'une famille à une autre.
Quand votre fils viendra un jour vous dire, bon voilà, ça y est, je vais me marier.
Mais en fait, je serais très heureuse, en fait. En fait, je serais très heureuse parce que je préfère ça. Je préfère qu'il arrive à vivre sa vie affective, enfin ses choix de façon sereine et stable. Parce que moi, ce que j'ai entendu plein de fois, c'est « Ah bah oui, mais les homos, ils sont tous en boîte tous les soirs et ils ont 10 relations sexuelles par jour. » Enfin, on entend toutes ces choses-là. Moi, il y a une notion dans ma vie qui est très importante, c'est la fidélité. Je trouve que la fidélité, c'est une valeur qui est extrêmement dénigrée aujourd'hui, enfin, qui n'est pas prise en compte pour tout ce qu'elle peut apporter. Je trouve que c'est quelle que soit la situation. Même, on peut être fidèle à un commerçant, à un coiffeur, je ne sais pas qui c'est. Peu importe, mais la fidélité, c'est quelque chose qui est très équilibrant et de très structurant sur le plan humain, quelle que soit la situation. Et donc, je trouve que même si on a, si on a dans sa vie affective un homme ou une femme, quelle que soit la situation, la fidélité peut apporter beaucoup. Donc, si mon fils me dit, moi, mon intention, c'est de m'engager et d'être fidèle à cette personne parce que je l'aime, parce que j'ai envie de construire quelque chose avec elle, je dis, mais vas-y, je suis très heureuse que tu rentres dans cette perspective de la fidélité et de l'engagement.
Oui, moi, je pense qu'il y a aussi une notion, en tout cas, que j'ai trouvée importante dans ma famille, c'est que l'homosexualité se rapporte tout de suite à la sexualité. Et dans certaines de nos familles, en tout cas dans la mienne, la sexualité était un sujet tabou. En tout cas, on n'en parlait pas. Voilà, on n'avait pas interdiction d'en parler.
Comme dans beaucoup de familles.
Mais on n'en parlait pas. Et en fait, quand notre enfant est hétérosexuel et puis rencontre très jeune quelqu'un, se marie, etc., on se pose pas tellement de questions sur sa sexualité. C'est tout se fait. Et puis en plus, si l'église est présente, il y a un mariage à l'église, etc., tout va bien, les choses se font naturellement, on s'interroge pas là-dessus. Mais d'un coup, quand notre enfant annonce qu'il est homosexuel, on se dit « Ah, mais ça veut dire qu'il a une sexualité, ça veut dire qu'il a un désir charnel. »
Il y a tout un imaginaire qui se met en branle dans ces cas-là.
Et moi, je pense que vraiment, c'est ça en tout cas qui a... Mais pas forcément que mes parents, hein, des gens dans l'entourage, je n'ai jamais eu autant de questions sur ma sexualité que depuis que je suis avec Aurore. Des questions qu'on ne m'avait jamais posées quand j'étais avec mon copain à l'époque et qu'on ne m'aurait jamais posées. Là, d'un coup, les gens s'imaginent des choses et sont très mal à l'aise avec cette notion physique, charnelle, en fait. Moi, je sais qu'avec Aurore, on n'ose pas encore s'embrasser ou se tenir la main devant mes parents, chose que je faisais très naturellement avec mon copain à l'époque. Parce que je sais que ça, cette notion physique perturbe beaucoup. En tout cas, c'est la sensation que j'ai eue.
Yolande Dufayet de la Tour, pourquoi ?
Parce que
ça correspond pas évidemment à la norme.
Parce que les parents sont mal à l'aise. Enfin, les parents ne parlent pas de leur sexualité. Ça paraît normal. Oui. Et on ne parle pas de la sexualité de son couple. Donc, les enfants ne parlent pas non plus de la sexualité dans leur couple. Et en fait, le coming out, c'est-à-dire sortir de la norme, implique de parler aussi de sexualité. Mais bon, ça n'est pas que de la sexualité, c'est aussi de l'affectivité, des sentiments. Mais bon, le mot, en fait, induit un imaginaire contre lequel c'est difficile d'aller. J'avais envie de revenir sur la notion de fidélité et de la relation que les personnes homosexuelles ont avec leur famille et qui est très, très bien décrit dans le livre de Marie-Clémence. C'est que c'est important... Pour qu'un couple dure, c'est important pour que les enfants soient heureux et dans leur couple et dans leur famille, qu'ils aient le soutien de leurs parents. Donc, je trouve que ça, comme le disaient Florence et Marie-Clémence, c'est important que les parents puissent soutenir les efforts d'engagement de leurs enfants, mais qu'ils soient hétérosexuels comme homosexuels. Et c'est aussi le gage d'une forme de sécurité, stabilité, engagement. Les parents ont cette responsabilité-là. Et je pense que c'est la plus belle chose qu'ils peuvent donner à leur enfant quand ils se marient. Et puis après, quand éventuellement il y a des enfants et des petits-enfants, c'est apporter ce soutien, cet amour, en fait, comme vous le dites. Ce qui est important, ce sont des histoires d'amour. Et comment le lien peut, dans l'amour, se retisser.
Oui, moi, c'est... Mes parents sont très importants pour moi. Ma famille est très importante pour moi au quotidien. Et dans les étapes qui ont pu être difficiles, où j'ai eu du mal à faire entendre des choses, quand parfois je ne me sentais pas soutenue, c'était vraiment douloureux et handicapant. C'est-à-dire que j'avais beau me dire « je ne fais pas de mal, etc. Tout va bien. »
Que par rapport aussi à vos grands-parents.
Voilà.
Et votre maman qui n'ose pas, qui ne veut pas, en fin de compte, que ses parents soient au courant.
Oui, parce qu'elle a peur. Elle a peur qu'on lui reproche à elle d'avoir raté quelque chose. Et c'est des discours qu'elle a entendus. Ma mère a énormément souffert parce qu'elle a eu des reproches de ses parents, mais elle en a eu aussi, et de manière plus...
sournoise.
Plus sournoise de l'entourage, des gens qui appellent et puis qui disent « Oh, j'ai appris pour Marie-Clémence, écoute, je t'apporte tout mon soutien, tout va bien. Bon, par contre, j'aimerais pas que ce soit chez moi, j'aimerais pas que ce soit mon fils ou ma fille. » Et puis voilà, débrouille-toi avec cette information-là. Il n'y a aucun vrai soutien, elle s'est sentie seule.
Florence, on arrive au terme de cette émission. Qu'est-ce que vous pouvez passer comme message aux parents qui nous écoutent aussi, qui ont un enfant homosexuel ?
Je leur dirais que, d'abord, qu'ils n'espèrent surtout pas changer leur enfant. Ça, c'est la première chose, parce qu'en fait, c'est la première réaction. C'est au niveau de l'annonce, quand on apprend ça, on se dit « Ah, mais il y a eu un bug, quoi. Il y a eu un bug. Soit c'est moi qui... » Alors d'ailleurs, il y a le problème de la culpabilité des parents, ça, c'est sûr. On se dit « Moi, j'étais en plus dans une vision freudienne, où c'était de ma faute, parce que j'étais trop fusionnelle, ce qui n'était pas le cas du tout. » Mais en fait, il ne faut pas espérer changer son enfant. Il faut espérer se changer soi. Et c'est comme ça qu'on va accepter la situation.
Yolande Dufayet de la Tour, un rendez-vous au mois de novembre.
Alors, la Maison des Familles invite toutes les personnes homosexuelles, leurs familles, les proches, les gens qui ont envie de s'intéresser au sujet. Samedi 23 novembre, à la Maison des Familles de Boulogne, un grand colloque, l'homosexualité, parlons-en. Et il y a une
On dira. Site.